Nouvel invité dans ce plateau Radio PFM en direct du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Et on reçoit Laurent Chambon. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques, journaliste, ancien élu travailliste à Amsterdam. Vous êtes né en France et français, ouais. Mais vous avez été élu là-bas. Alors, c'est quand même un parcours atypique. Hein.
Ouais, je sais, ouais. Mais la vie est courte, faut faire des choses dans la vie, ouais.
Ouais. Alors, journaliste.
En parlant de droit de vote des étrangers, ouais.
Ouais, voilà. Alors, on vous reçoit donc pour ce bouquin que vous avez écrit, Marine ne perd pas le Nord, hein, aux éditions le Muscadier. Alors, Marine ne perd pas le Nord, c'est pas le Nord-Pas-de-Calais, hein, c'est parle du Nord de l'Europe. Hein.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu peut-être la démarche du bouquin? Est-ce que le but c'est de mieux connaître ses ennemis politiques pour mieux les combattre?
Oui, entre autres, mais c'est pas aussi simple que ça. En fait, ça fait longtemps que j'habite aux Pays-Bas, et donc je suis la politique néerlandaise, c'était le sujet de ma thèse. Et je suis aussi ce qui se passe un peu au nord de l'Europe, parce que quand on connaît les Pays-Bas, on connaît un petit peu l'Europe scandinave. Et j'étais étonné par le fait qu'on ait des mouvements absolument similaires au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, même en Belgique, enfin en Flandre, et qu'on n'en parle pas du tout en France, alors que pour comprendre Marine Le Pen, il faut comprendre Geert Wilders ou Pia Kersgaard. Et à ma connaissance, personne n'a jamais rien écrit dessus, ce qui est vraiment incroyable, parce qu'on est quand même un continent, on est une union de 400 millions d'habitants, on ne connaît pas nos voisins. Et donc je me suis dit, il va falloir en parler, parce qu'il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne ce qu'on est en train de vivre en France. Les Danois l'ont vécu il y a 10 ans, et les Hollandais l'ont vécu il y a 3 ans, et les Belges connaissent ça depuis plus de 10 ans. Donc voilà.
Alors justement, quel est le parallèle entre l'évolution du FN en France et puis l'évolution hein, des différents mouvements d'extrême droite dans l'Europe du Nord?
Alors en fait, il y a plein de choses qui sont vraiment similaires. La première chose, c'est que l'ensemble de l'Europe du Nord est aussi touchée que nous par la mondialisation. Pas le côté positif de la mondialisation, le côté négatif. Il y a beaucoup de pertes d'emplois et la classe moyenne souffre énormément et elle n'a pas fini de souffrir. Sachant qu'en Europe du Nord, on a beaucoup plus eu accès au crédit, donc pour l'instant, c'était un peu caché derrière le crédit. Politiquement, on est à peu près dans la même zone, c'est-à-dire on a une gauche qui est divisée entre une nouvelle gauche radicale qui se cherche encore un petit peu et une gauche du gouvernement qui s'est complètement vautrée dans le libéralisme. Je suis pas d'extrême gauche du tout, mais j'explique ce qui se passe, quoi. Et à côté, on a une droite qui n'a plus aucun repère, même pas politique ou éthique, et qui va à la soupe avec une extrême droite nouveau style, donc que je décris. Qui reste la même extrême droite si on gratte bien, mais qui a une nouvelle apparence beaucoup plus respectable. Et donc on se retrouve avec des coalitions de droite et d'extrême droite qui sont d'une violence incroyable, donc d'une violence sociale, mais aussi d'une violence ethnique, on pourrait dire, où tout ce qui n'est pas blanc et autochtone est mis au pilori. C'est vraiment très, très terrible, c'est vraiment violent. Et donc, on parle de Le Pen, elle a beaucoup changé, etc. Moi, je dis qu'il faut aller voir ce qui s'est passé au Danemark et ce qui se passe aux Pays-Bas pour comprendre ce qui nous attend. Et voilà, quoi.
Alors justement, ouais, vous qui connaissez bien les Pays-Bas, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les mouvements d'extrême droite là-bas?
Alors, en fait, c'est un peu compliqué. Parce que traditionnellement, il n'y avait pas d'extrême droite comme on peut avoir avec Jean-Marie Le Pen à l'époque. Donc on a une nouvelle extrême droite qui vient d'être créée, sachant que ça a commencé avec Pim Fortuyn, ensuite on a Rita Verdonk, et là on a Geert Wilders. À chaque fois c'est des mouvements qui ont été créés un peu ex nihilo, et donc a priori ça ressemble pas trop au Front National, qui est plutôt une agrégation de mouvements qui existent depuis déjà avant la guerre en gros. Et en même temps, on a cette extrême droite qui s'habille comme pas homophobe, pas antisémite, pas raciste, pas sexiste, mais qui reste une extrême droite, qui aime bien trouver des boucs émissaires, qui s'habille derrière une espèce de gauchisme économique, mais dans les faits s'allie systématiquement avec une droite ultralibérale. Donc même s'ils se disent on est là pour défendre les classes moyennes et classes inférieures, comme ils vont voter tous les textes de la droite libérale, on va avoir des textes de libéralisation de plus en plus poussés. Et à côté, ce qui est intéressant, c'est que justement la frontière entre droite et extrême droite, j'ai fondé un site qui s'appelle Minorité avec Didier Lestrade, minorité.org au pluriel, et on parle beaucoup de ça, on explique que quoi qu'on dise, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, c'est la même droite, c'est la nouvelle droite, extrême droite, à vous de choisir le terme, et donc il n'y a plus cette limite entre une droite dite républicaine et une extrême droite.
Et le cordon sanitaire
C'est fini. Les Belges ont essayé aussi, le cordon sanitaire, ça a complètement raté, la politique flamande, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais complètement contaminée par l'ultranationalisme flamand. et la droite néerlandaise est complètement contaminée par le racisme, l'islamophobie de l'extrême droite néerlandaise. Et on a connu la même chose au Danemark. Et donc, on se retrouve en fait avec une extrême droite qui n'a plus du tout la même forme et qui, dans les faits, se confond avec la droite classique. Et c'est ce qui est arrivé au Danemark depuis 10 ans, donc depuis 3-4 ans aux Pays-Bas. Et là, c'est si en train d'arriver, on le voit bien avec Nicolas Sarkozy, ça fait 2 ans qu'il est clairement au Front National. Et voilà quoi.
Alors, vous disiez les apparences anti-homophobes de ces mouvements d'extrême droite. Est-ce que vous pouvez revenir un peu ? C'est quand même un passage.
C'est intéressant. En fait, il y a peut-être des gens qui connaissent Didier Lestrade, c'est le fondateur d'ACT UP et de Têtu, on a fait Minorité ensemble, et il vient d'écrire un bouquin, Pourquoi les homos sont-ils de droite, ou je sais plus, pourquoi les homos on vire à droite, je sais plus le titre exactement, il faut regarder ça sur Google. Et justement, il explique qu'il y a une sortie du placard des homos de droite et d'extrême droite, et qui, à la fois, c'est normal, c'est la forme de démocratisation de l'homosexualité, on va dire, mais en même temps, ils ont aidé à légitimer l'extrême droite et à la dédiaboliser. Qu'ils se regardaient si les homos sont tolérés au Front National et même si Marine est entourée de folles, ça veut dire que finalement, être en droite, ils ne sont pas si méchants. Et en fait, c'est confondre plein de choses. Effectivement, la nouvelle génération de gens, ils sont plus homophobes, plus antisémites, plus racistes, parce qu'on a tous grandi différemment, c'est une autre société, quoi, c'est fini les colonies. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas d'extrême droite. Et donc, baser l'analyse de savoir si Marine Le Pen est d'extrême droite, ou Geert Wilders est d'extrême droite, ou Pia Kersgaard est d'extrême droite, sur la question de l'homophobie et de l'antisémitisme, c'est se tromper. Parce que ce n'est pas ça les marqueurs. Donc, ce n'est pas parce que Marine Le Pen est super cool avec les homos, et peut-être qu'un jour elle va nous dire « j'aimerais bien le mariage pour les homos, ça serait vraiment sympa », ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas d'extrême droite.
Alors, il y a le premier chapitre du bouquin essaie d'expliquer pourquoi, aussi au sein de la population, il y a cette montée, cet attrait vers l'extrême droite. Et vous expliquez ça un petit peu par la crise de l'État-providence. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un
Alors,
petit peu
en fait, aussi
le rapport à l'égalité, le clientélisme, des choses comme ça?
En fait, ce qui se passe, c'est que si on parle d'égalité... En fait, moi, je parlerais presque du libéralisme, au sens de l'essence où chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Et l'essence du libéralisme, quelque part, c'est avoir la liberté de se réaliser, même économiquement. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion en Europe, on se rend compte que les Européens sont devenus ultra-libéraux. Pas au sens économique, mais au sens personnel. Ils veulent leur liberté et ils veulent avoir la liberté aussi de se réaliser. Et ce qui est intéressant avec cette évolution, c'est qu'en fait, jamais les Européens ont été aussi attachés à la méritocratie. Donc c'est une forme de libéralisme individuel, en fait. C'est l'idée que je vais faire mes études, ou je vais apprendre des choses, et je vais essayer de me réaliser dans ma carrière, dans ma vie, en construisant la vie qui me plaît. Et en fait, partout en Europe, on a une société complètement bloquée, où c'est les classes dominantes qui maîtrisent tous les postes intéressants, et ces postes intéressants ne sont pas attribués en fonction des talents, contrairement à ce qu'on cherche à nous croire, mais en fonction des origines et des amitiés, c'est-à-dire des réseaux ou de la famille dans laquelle vous êtes né. Et ça, c'est quelque chose qui bloque l'Europe entière. Bon, les États-Unis, c'est pareil, hein. C'est l'Occident qui est malade de cette maladie. Et en fait, en France et aux Pays-Bas, qui sont deux pays qui ont été différemment touchés par la Révolution, mais qui les a... c'est pas pour rien que c'est deux pays un peu révolutionnaires, cette idée d'égalité est ultra centrale. Et pour l'instant, les partis politiques classiques, on va dire, c'est-à-dire la gauche du gouvernement, la droite du gouvernement, ont fait semblant de pas s'y intéresser. Ils ont fait semblant de croire que l'égalité était sur le papier, donc elle est dans la réalité. Et donc le manque de perspective des classes moyennes et des classes inférieures a été abandonné aux populistes. Et donc, il y a les populistes de gauche et les populistes de droite. Donc, il y a quelquefois, il y a une idée, la droite, en fait, va chercher un bouc émissaire ethnique, et la gauche va chercher une remise à plat de la redistribution matérielle, on va dire. Et donc, pour l'instant, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, les seuls qui ont vraiment réussi à mobiliser ces gens qui sont frustrés, c'est l'extrême droite. À mon avis, pour des mauvaises raisons, mais bon, je ne dis pas que je suis objectif sur la question. Et la question, c'est effectivement, est-ce que la gauche est en état de mobiliser le peuple sur la question de l'égalité de façon aussi efficace que la droite, mais sans utiliser le racisme ou la xénophobie. Et donc je pense que pour comprendre Marine Le Pen, bien sûr, il y a des gens qui sont racistes, il y en aura toujours, on ne peut rien y faire, mais la question de l'égalité est vraiment très centrale, même si elle est formulée quasiment de façon perverse par le Front National, même la droite de Sarkozy, avec le travailler plus pour gagner plus, c'est exactement ça, l'idée de faire des efforts et d'être récompensé. Et donc, à la limite... Le succès de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy jusqu'à maintenant signe plutôt l'échec de la gauche à mobiliser le peuple sur la question de l'égalité.
Alors je laisse les auditeurs libres de voir si cette analyse colle à la situation dans le Pas-de-Calais. Vous savez peut-être que dans le Pas-de-Calais, il y a des gros scores qui ont été réalisés par le FN.
Oui, par ailleurs, c'est dynamique, c'est-à-dire c'est une élection maintenant, c'est les dernières années, mais rien ne dit que ça... Justement, ce bouquin, ce n'est pas pour dénoncer, c'est pour dire « réveillez-vous ». Collectivement, on a les moyens de changer les choses. Et ce n'est pas à moi, Laurent Chambon, de dire ce qu'il faut faire, mais j'explique ce qui se passe en Europe du Nord et je dis « il y a encore moyen de mobiliser les gens, de changer les choses ». C'est pas un bouquin d'attaque, c'est un bouquin d'encouragement.
Ouais, justement, parce que vous disiez, il y aura toujours des gens racistes, on peut rien y faire.
Ouais, bon, si on peut faire.
Quand même, à la fin du bouquin, il y a un petit, quelques conseils, comment lutter contre l'extrême droite. C'est aussi des questions qu'on peut se poser aussi dans des collectifs. Bon, je sais, à Arras, il y a un collectif antifasciste. Dans le bassin minier, il y a aussi un collectif antifasciste. Comment faire?
En fait, la grosse erreur de la droite et de la gauche, la droite se vote dedans avec Nicolas Sarkozy, mais on voit qu'en ce moment, à l'UMP, c'est en train de chauffer, donc je pense qu'après les élections, il y aura une réorganisation. C'est que aux Pays-Bas et au Danemark, la gauche a essayé de reprendre les voies que lui aurait volées l'extrême droite en reprenant ses thèmes, donc le nationalisme, la xénophobie et aussi une forme d'islamophobie. Ça n'a pas marché du tout, la gauche s'est vautrée aux dernières élections, et là, c'est mal parti, même s'il y a des changements. Donc si on pense qu'on va reprendre les électeurs de l'extrême droite en utilisant les thèmes d'extrême droite, franchement Marine Le Pen est beaucoup plus efficace ou Geert Wilders à utiliser ces thèmes que la gauche. Donc déjà la première leçon, c'est que ça sert à rien d'essayer d'imiter l'extrême gauche, autant l'extrême droite, pardon, il vaut mieux être soi-même. De toute façon les gens ils sont pas idiots, ils voient bien quand on essaye d'aller à la soupe. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de toute façon le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, c'est des choses qui doivent pas être tolérées, point. Et on ne doit même pas rentrer dans la discussion. Moi, je dis, si vous avez un problème avec les homos, avec les noirs, il faut aller voir un psy, c'est tout, c'est une maladie. Il n'y a pas de discussion à avoir. Il n'y a pas, mon pauvre chéri, tu souffres, c'est normal que tu détestes les noirs. Non, il n'y a pas de discussion à avoir. Et ça, c'est un truc que même la gauche, en ce moment, entre les deux tours, est en train de se tromper. Ah, les gens du Front National souffrent, mais il n'y a pas qu'eux qui souffrent. Je veux dire, on souffre tous. C'est pas pour ça qu'on devient raciste. Donc, il y a deux choses. La première, c'est si on est de gauche, il faut rester de gauche. Il ne faut vraiment pas hésiter à être soi-même. Il n'y a pas de raison d'avoir honte. Et la deuxième chose, c'est si les gens souffrent de racisme, eh ben, il faut les soigner, c'est tout. On n'a pas à rentrer dans leur jeu d'islamophobie, d'homophobie, d'antisémitisme, quel que soit le truc, de sexisme, pour leur faire plaisir. Et ça, c'est quelque chose que la gauche et la droite ont encore du mal. Ils pensent que c'est une opinion légitime. Ce n'est pas une opinion légitime, c'est une maladie sociale d'être raciste ou homophobe ou antisémite.
Puisqu'on parlait d'islamophobie, à la fin du bouquin, il y a un tableau assez... assez intéressant, qui compare un petit peu les discours des différents leaders politiques sur les boucs émissaires, justement. Un petit peu, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce tableau?
En fait, j'aime bien les tableaux parce que dès qu'on parle d'extrême droite, on a tendance à être irrationnel et nous-mêmes, on projette nos peurs. Et moi, je sais que je suis aussi irrationnel, je suis un humain comme les autres. Donc j'aime bien faire des tableaux pour voir vraiment mettre à plat les choses. Et donc, il y a déjà tout ce discours où non, ça y est, on adore les PD, les Noirs, les Juifs, c'est super sympa, l'extrême droite, vous allez voir. Donc moi, j'aime bien mettre les choses à plat. Et en particulier, les 10 définitions du fascisme. Et donc, j'ai essayé de comparer entre les définitions officielles du fascisme et les nouveaux mouvements d'extrême droite. Et en fait, si on enlève les oripeaux antisémites ou islamophobes, ils sont islamophobes, mais antisémites ou sexistes, on retrouve exactement les mêmes thèmes. Donc il ne faut pas se laisser avoir par l'habillage. Il faut mettre les choses à plat, sur papier, sans émotion, en regardant c'est quoi leur programme, ça correspond à quoi historiquement. Et il ne faut pas hésiter à dire que ça reste une extrême droite très proche du fascisme, même s'ils vont détester le terme, ils vont sûrement hurler. Mais si on met les choses à plat, on a exactement ça.
Laurent Chambon, peut-être les deux dernières questions. Bon, vous en avez parlé tout au long de l'interview, mais quel est un peu votre regard sur l'entre-deux tours? Là, on est entre le premier et le deuxième tour des élections présidentielles.
Ouais.
Comment vous voyez un petit peu cette situation en France?
En fait, c'est assez marrant parce qu'aux Pays-Bas, personne ne connaît trop François Hollande. Donc j'ai essayé de leur expliquer.
Malgré son nom de famille.
Ouais, non, ils aiment beaucoup, donc il y a plein de blagues très rigolotes sur enfin les Français apprennent les bonnes choses, etc. Et comme je l'ai expliqué, en fait, c'est pas un concours de beauté. Donc François Hollande, il est pas super sexy, il nous fait pas vibrer à mort, etc. Mais c'est la plupart des gens, j'espère, en tout cas, vont voter pour lui, en tout cas pour se débarrasser du système Sarkozy, et justement pour mettre à mal cette union entre la droite et l'extrême droite, sachant qu'on n'a pas fini d'entendre Marine Le Pen, hein, je pense qu'on va se la taper pendant encore au moins 20 ans. Et donc justement, cette élection, c'est une bonne façon de comprendre ce qui s'est passé. On voit bien que Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, c'est quasiment le même candidat. Et donc, je pense que c'est une élection vraiment très intéressante parce que ça a mis les choses bien à plat. On voit qu'il y a une extrême gauche qui se commence à renaître. Le Parti socialiste, qui on espère, a compris ce qui s'est passé et va se remettre en cause. On a vu que les centristes, de toute façon, jusqu'à maintenant, c'était juste un réservoir de voix pour la gauche ou la droite, ça dépend de qui est le candidat le plus intéressant. Et que la droite et l'extrême droite sont déjà en collaboration depuis plusieurs années. Donc, c'est assez marrant. J'avais écrit ce bouquin en n'ayant aucune idée de ce qui allait se passer pendant les élections. Et ça s'est révélé complètement juste.
Ouais, mais dans les médias, ce qu'on remarque aussi dans l'entre-deux-tours, hein, c'est que vraiment le centre du débat, c'est vraiment mis à droite. En entre-deux-tours, on n'entend parler que d'immigration.
Ouais, c'est hallucinant. Justement, c'est une très bonne leçon, c'est comment se faire imposer les thèmes par la droite et l'extrême droite. Et je suis fasciné que les médias se vautrent à ce point dans ces débats complètement vraiment insupportables. Alors que, je sais pas, vous demandez, pas forcément français moyen, mais n'importe quel français, je pense que leur préoccupation numéro un, c'est l'économie et leur emploi. Et puis après, il y a toutes les privatisations qui nous attendent. Parce qu'aux Pays-Bas, je peux vous dire, si on a deux minutes, mais on a vécu les privatisations depuis 10 ans, et c'est vraiment une catastrophe, mais effroyable. Il n'y a plus rien qui marche, tout est super cher, il y a de la corruption, enfin c'est la folie. Et je suis étonné qu'on ait aucune discussion là-dessus, alors que ça va vraiment toucher la vie des gens. Et par ailleurs, il y a un truc quand même qui me fascine vu de l'extérieur, c'est qu'on n'arrête pas de parler de la République, la laïcité, l'islam. Franchement, si on a 1 million de musulmans super intégrés qui menacent la République, dans quel état est la République, quoi ? Je veux dire, on est vraiment délabré à ce point-là. Je suis vraiment fasciné par le non-débat qu'on peut avoir. Mais je pense que je ne suis pas le seul, je pense que plein de gens se posent exactement les mêmes questions.
Laurent Chambon, donc auteur de Marine perd pas le Nord. Donc vous êtes toute la journée à Arras au Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale. Dernière petite question, hein. À côté de ça, vous êtes aussi musicien.
Ouais.
Alors un mot là-dessus, c'est Cherry Juice Recording, c'est ça le label ?
J'ai un petit label à Amsterdam qui est basé aussi au Japon et aux États-Unis. Il s'appelle Cherry Juice Recordings. Et on a plusieurs artistes, c'est assez à la pointe, mais c'est house pop. Je pense que c'est sympa. Enfin, je suis pas objectif parce que j'aime bien ma musique, mais je suis pas le seul. Et donc, si les gens veulent aller écouter cherryjuicerecordings.com, c'est souvent sur iTunes. Il reste des CD quelque part. S'il reste encore des Fnac en France, je sais pas trop.
Oui, il en reste.
Ouais, mais est-ce qu'ils vendent encore des CD ?
Non.
D'accord. Ouais.
Des machines à laver.
Ouais, c'est ça. Quoi.
Quelques CD quand
D'accord.
même.
D'accord. Bon, je sais pas s'ils vont trouver ça. Ouais.
D'accord.
Et c'est très inspiré par la musique japonaise et la musique noire et la musique européenne.
Laurent Chambon, merci. Et puis bon salon du livre à vous.
Merci.
Au revoir.